Monsieur le cardinal, messeigneurs, mesdames et messieurs les ministres, excellences, messieurs les bourgmestres, messieurs les recteurs et leurs représentants, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs. L'année dernière, je terminais le discours de rentrée académique en disant « Ce dont les universités ont besoin tient en trois mots, vision, autonomie, moyens. En retour, ce que les pouvoirs publics seront en droit d'attendre de leurs universités tient aussi en trois mots, qualité, équité, efficacité. » Ces propos sont toujours d'actualité. Avec une différence toutefois, c'est qu'en un an, beaucoup de choses ont changé. Et ce qui était nécessaire hier l'est encore plus aujourd'hui. Les changements dans la société n'affectent pas seulement l'environnement de l'université. Ils ont aussi des retombées sur ses missions et sur ses activités. Ils sont parfois vécus comme une menace pour l'identité même de l'université. Société en mutation, université en tension, tel est le thème que je veux développer devant vous aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé dans l'université et autour de l'université. Dans l'université tout d'abord. La rétrospective de l'année 2006-2007 que vous venez de voir vous a donné un premier aperçu de ce qui a été accompli depuis un an. Le rapport du conseil rectoral qui vous sera distribué à la sortie de cette séance en donne un exposé plus détaillé qui montre comment les décisions et les projets en cours sont autant d'éléments de mise en œuvre d'une politique d'ensemble pour l'université. Cette politique est au service d'une vision pour l'UCL. Avec le conseil rectoral, je me suis engagé à faire de l'UCL une université de premier plan en Belgique, en Europe et dans le monde, renommée pour la qualité de ses recherches et de son enseignement, mais aussi un lieu de culture, de rencontres, d'expériences et un espace de valeurs. Cette politique s'articule autour de quatre priorités annoncées dès 2004. S'engager dans des démarches prospectives, c'est-à-dire en toute chose regarder vers l'avenir plutôt que chercher à perpétuer le passé. Atteindre l'équilibre budgétaire et constituer des réserves stratégiques qui permettent à l'université d'investir dans des activités innovantes. Améliorer les structures de l'université et son fonctionnement, mettre en place une culture du projet et de l'évaluation. Ce sont ces quatre priorités qui ont été poursuivies à travers toutes les décisions prises depuis trois ans et qui sous-tendent encore les projets en cours, notamment ceux qui sont regroupés sous le nom de « plan de développement », ce programme de réforme que le conseil rectoral a proposé à l'université il y a deux ans. Ce plan n'est pas une fin en soi. Il est un outil au service d'une vision. Les deux grands événements de l'année académique écoulée, l'achèvement de la transformation de tous nos programmes dans le système de Bologne et l'annonce de la fusion des quatre institutions membres de l'Académie Louvain pour former une nouvelle UCL, participent de la même vision et des mêmes priorités. J'ai la conviction que la vision qui est proposée et les priorités qui sont poursuivies sont celles qui permettront à l'UCL de répondre positivement aux profonds changements qui affectent notre environnement. Beaucoup de choses évoluent aussi autour de l'université et constituent autant de défis. Citons-en quelques-uns en élargissant progressivement le cercle. La difficulté pour un nombre croissant de jeunes d'accéder à l'université et d'y réussir. La réalisation du projet de fusion au sein de l'Académie Louvain et l'émergence de la nouvelle UCL. Le contexte politique et économique de la communauté française et de la Belgique. La mise en place du système de Bologne dans l'enseignement supérieur dans toute l'Europe. L'internationalisation de la recherche et de l'enseignement à l'échelle mondiale. Chacune de ces évolutions mériterait un long développement. Je prendrai seulement deux exemples qui révèlent combien ce qui se passe autour de l'université affecte aussi ce qui se passe à l'intérieur de l'université. L'Académie d'abord. La réalisation du projet de fusion au sein de l'Académie Louvain et l'émergence de cette nouvelle UCL constitue un extraordinaire défi qui conduira notre université à revoir sa gouvernance, ses structures, son fonctionnement et surtout à opérer des choix parmi ses activités, une démarche à laquelle, reconnaissons-le, la culture universitaire n'est pas accoutumée. Ces choix seront cependant nécessaires pour que chacun des partenaires puisse développer ses points forts et ses spécificités. Comme membre le plus important en taille de l'Académie, c'est à l'UCL qu'il revient de garantir que cette fusion se réalisera bien au profit de chacun des partenaires. Je suis personnellement convaincu que la fusion au sein de l'Académie ne sera qu'une des étapes d'une recomposition du paysage de l'enseignement supérieur en communauté française qui transcendra un jour les clivages idéologiques traditionnels et entraînera de nouvelles répartitions des activités d'enseignement et de recherche. Et j'y vois la perspective d'un enseignement supérieur et d'une recherche scientifique de haut niveau, construit sur la collaboration et non plus sur la concurrence. Et je souhaite contribuer à remplacer une compétition pour de maigres ressources par une émulation pour la qualité. C'est d'autant plus nécessaire, et c'est mon second exemple, que l'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Europe et dans le monde prend place dans un contexte de plus en plus concurrentiel, où mobilité et compétition deviennent deux facteurs prédominants, dont chacun peut déplorer certaines dérives, mais qu'il serait irresponsable d'ignorer. Les retombées sur la vie dans les universités sont immédiates. Les chercheurs, par exemple, les chercheurs doivent aujourd'hui se muer tout à la fois en demandeurs de crédit, en gestionnaire de fonds, en manager d'équipe, en porteur de projet, tout en formant des jeunes et en dirigeant des thèses de doctorat, et naturellement en continuant leur recherche personnelle, et cela en combinant à la fois l'indispensable initiative individuelle, le seul véritable moteur de la recherche scientifique, et la tout aussi indispensable constitution d'équipe. Il devient donc évident que les exigences de la recherche scientifique demandent aux universités de s'interroger sur leur organisation. Accès des jeunes défavorisés à l'UCL, Académie Louvain, Communauté française, Belgique, Europe, Monde, dans chacun de ces cercles, l'UCL prend des initiatives innovantes. Le rapport de l'année 2006-2007 montre le chemin déjà parcouru. Mais chaque jour, de nouveaux progrès sont réalisés. Depuis la rédaction du rapport que vous allez recevoir, par exemple, le Centre de didactique supérieure de l'Académie Louvain a obtenu un financement de la Fondation Roi-Baudouin pour un projet permettant à des élèves de l'enseignement secondaire issus de milieux défavorisés d'acquérir les prérequis nécessaires pour accéder à l'enseignement supérieur. Avec la KU Leuven, nous voulons renforcer nos collaborations et avec elle, nous voulons renforcer notre présence internationale. Nous allons ouvrir un bureau conjoint à Pékin dans les prochains mois et nous préparons des opérations similaires en Amérique latine et en Inde. Je partage le souhait du corps académique de développer nos projets avec notre université sœur. J'invite les facultés et les doyens à organiser des programmes codiplômés et bilingues UCL-KU Leuven qui donneront à nos étudiants une formation précieuse et une largeur de vue dont notre pays a bien besoin. Beaucoup a déjà été accompli et je veux en remercier tous les membres de l'université. Chacune et chacun, par son engagement, a contribué au projet de l'UCL. Et j'y suis d'autant plus sensible que les conditions de cet engagement sont rendues plus difficiles et plus exigeantes d'année en année, pour deux raisons principales. D'une part, les moyens accordés aux universités demeurent insuffisants. Rappelons que le subside par étudiant en communauté française a diminué de 17% de 1991 à 2004 et que le refinancement lié au décret de 2004 ne compense même pas l'augmentation du nombre d'étudiants. Le public sait-il, par exemple, qu'à l'UCL, 4 000 de nos 21 000 étudiants ne sont pas totalement financés et qu'en communauté française, 18% des étudiants inscrits dans les universités ne font pas l'objet d'un financement de la communauté française. Néanmoins, les universités continuent à remplir leur rôle sociétal en les prenant en charge. D'autre part, la charge de travail augmente suite à l'effet conjugué de l'augmentation du nombre des étudiants, de la multiplication des contraintes légales, décrétales et réglementaires pesant sur les universités, et de l'évolution des attentes de la société envers l'université. À l'heure où je vous parle, nos inscriptions à l'UCL affichent une augmentation par rapport à celle de l'année passée à la même date, particulièrement en première année. Mais comme les autres universités annoncent la même tendance, il y a fort à parier que cette année aggravera encore un peu plus l'écart entre l'augmentation du nombre des étudiants et la diminution des recettes. Comme le disait Cicéron, quousque tandem, jusqu'à quand cela sera-t-il tenable? En un mot, faire face à plus de charges, avec moins de ressources, voilà le grand écart que doit réaliser quotidiennement une université. C'est la première et la plus sensible des tensions que doit vivre l'université dans une société en mutation. Je voudrais profiter de l'occasion de cette rentrée académique pour réfléchir avec vous à la manière dont une université vit cette tension, en tentant de décrire l'interaction qui se joue entre l'université et son environnement lorsque ce dernier est en profonde évolution. La poursuite des missions d'une université, pour être efficace, doit reposer sur une base solide, qui est la conception même que chacun a de l'université, de sa nature, de sa place et de son rôle dans la société. Un tel sujet ne peut se résumer en quelques minutes. Je me contenterai de mettre en exergue certains points, mais qui sont évocateurs de la situation des universités aujourd'hui et qui expliquent comment l'évolution de la société appelle les universités à se redéfinir aussi en partie. Qu'est-ce qu'une université dans une société en mutation? Tous les membres de l'UCL, je pense, s'accorderaient sans doute facilement pour reconnaître qu'une université est une institution de formation et de recherche au service de la société, caractérisée par l'exigence critique et par la liberté académique et animée par les valeurs qu'elle se choisit. Plus précisément, nous pourrions dire que l'université est identifiée par ses trois missions. La première, celle de l'enseignement, alterne la diffusion de savoirs existants et reconnus et la formation par la recherche. La seconde est celle de la création de connaissances par la recherche. La troisième mission caractérise les relations entre l'université et la société qui l'environne. En réalité, la réponse à la question « qu'est-ce qu'une université ?» n'a jamais été facile. Elle diffère selon les époques et à chaque période selon les pays. Aujourd'hui encore, au sein même de l'Europe de Bologne, la définition de l'université est un objet de discussion. L'Association européenne des universités, par exemple, éprouve de grandes difficultés à obtenir l'accord de ses près de 800 membres sur une formulation de l'article 6 de ses statuts définissant les critères de reconnaissance d'une université. Et chaque discussion élargit d'ailleurs un peu plus la définition. Les classements internationaux sont un autre révélateur de la diversité des réalités qui se cachent derrière le vocable d'université, parce qu'ils mélangent sans ménagement des institutions de nature et de taille très différentes, sans parler des conditions de financement et des situations légales. La difficulté de définir l'université tient donc à la variété des situations, mais cela se vérifie aussi dans notre pays. Le processus d'académisation de l'enseignement non universitaire en Flandre et les rapprochements entre universités et hautes écoles en discussion en communauté française de Belgique amèneront à réinterroger la formule « institution de formation et de recherche » et en tout cas à en moduler les parts respectives. Le plan stratégique que notre université sœur vient de proposer indique clairement une direction possible. La KU Leuven veut devenir le centre d'un réseau intégré de connaissances et de compétences. La difficulté de définir l'université tient également à l'évolution de ses missions. Si l'université a toujours été une institution de formation, de recherche et de service, ce que recouvrent ces trois mots s'est fortement transformé et de manière accélérée ces dernières années. La formation, qui s'adressait presque uniquement aux jeunes, s'ouvre à de nouveaux publics, ceux des adultes et des adultes en reprise d'études, par exemple. Elle fait appel à de nouvelles pratiques pédagogiques. Elle s'efforce de répondre à une exigence d'évaluation, exigence légitime de la part des étudiants notamment. Elle doit enfin rencontrer les attentes des milieux de l'emploi. Plus important encore, le décalage croissant entre la culture des jeunes d'aujourd'hui et l'enculturation des savoirs tels que la conçoit l'université, décalage qui est sans doute une des principales causes d'échec en première année, devrait appeler l'université à réexaminer sa manière de prendre en charge ses nouveaux étudiants. C'est là un thème que j'aimerais personnellement creuser et qui ferait plus, je pense, pour la démocratisation de l'université que des dispositifs réglementaires ou des obligations décrétales. La démocratisation de l'enseignement supérieur, en effet, demeure un défi. Encore convient-il de bien le comprendre. Il ne s'agit pas de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'université à n'importe quelle condition, mais il s'agit que tout jeune qui désire accéder à l'université puisse le faire. Et ce qui est le plus important, qu'il y trouve des chances égales de réussite, quelle que soit son origine sociale. La mission de recherche universitaire, de son côté, caractérisée par la double démarche de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, doit elle aussi rencontrer les besoins de la société et les attentes de certains organismes financeurs, souvent soucieux de récupérer rapidement leur investissement. Les évolutions des missions de formation et de recherche rejaillissent naturellement sur la mission de service qui en découle. Celle-ci peut prendre de très multiples formes, allant de l'activité culturelle à la coopération au développement, de l'expertise technique et scientifique à la création d'entreprises, ou encore, dans le cas particulier de l'UCL, sur ces deux sites, au développement urbain et au déploiement d'un tissu économique et social autour de l'université. Dans chacune de ces activités, les membres de l'UCL se sont montrés actifs et innovants. L'UCL est devenu un véritable acteur culturel sur ces sites et dans sa région, et a inscrit la culture au centre de ses formations, notamment avec les artistes en résidence et la mineure en culture et création, mais aussi en soutenant des initiatives et des infrastructures culturelles à Louvain-la-Neuve et à Woluwe. L'université a redéfini sa politique de coopération au développement en Afrique centrale, et elle a pris des mesures pour inciter les académiques et les chercheurs à s'investir dans ces activités. La valorisation de la recherche est inscrite parmi les priorités de la politique de recherche de l'UCL, et plusieurs nouvelles spin-offs sont créées chaque année. Un aspect particulier de la mission de service est celui de la relation entre l'université et le marché du travail. Et c'est peut-être d'ailleurs l'aspect qui évolue le plus rapidement aujourd'hui, en raison des attentes des employeurs, voire même de leur impatience vis-à-vis de l'université. Un bon exemple en a été fourni il y a quelques mois par une prise de position publique de la Fédération de l'industrie technologique, Agoria, qui écrivait, je cite, « 73% des entreprises éprouvent des difficultés à engager des ingénieurs de production, 67% à trouver des ingénieurs pour des fonctions technico-commerciales. La situation est également difficile dans l'automatisation, la maintenance et les bureaux d'études. » Fin de citation. Agoria met en avant trois raisons principales. Le niveau des compétences des diplômés, notamment en langue et en économie, le nombre insuffisant de jeunes qui se lancent dans les études d'ingénieurs, et le manque de créativité, d'innovation et d'esprit d'entreprendre dans l'enseignement supérieur. Au-delà du cas spécifique des ingénieurs, qui est en soi interpellant, la position d'Agoria met en lumière la nature de la relation entre université et emploi. L'université est appelée à former des diplômés qui contribueront au développement économique et social de leur région ou de leur pays, dans un contexte marqué à la fois par des phénomènes locaux et par des phénomènes globaux. À mes yeux, l'université doit répondre à cette attente si elle veut exercer sa responsabilité sociétale. Mais elle doit le faire en demeurant attentive au risque d'une dérive qui la transformerait en usine à diplômes. L'université est et doit rester un lieu de formation critique où se forgent les personnalités de jeunes qui deviendront des adultes responsables et créatifs et pas simplement un lieu d'acquisition de compétences prêtes à l'emploi. Pour une université dans une société en mutation, gérer ce paradoxe est au cœur de la démarche universitaire et de sa mission de service à la société. L'université est une institution en interaction constante avec son environnement et avec ses publics. Si cet environnement change ou si les publics évoluent, l'université évolue en retour, en vertu même de sa nature de lieu de rencontre. Cette interaction n'est en fait que la partie visible de tensions plus profondes au sein de l'université, qui mettent en jeu le sentiment d'appartenance et l'affectivité. Il y a l'université idéale, où chacun pourrait développer ses projets avec tous les moyens nécessaires, à l'abri des contraintes et des pressions, et où le social et l'humain seraient toujours au premier plan. Et je pense que tous ceux qui se sont engagés dans l'université ont une pépite de ce rêve enfoui au plus profond d'eux-mêmes. Moi aussi. Ce rêve est d'ailleurs nécessaire pour nourrir une vision. Et il nourrit en effet la vision du Conseil rectoral. Le rêve est un signe de bonne santé, dit-on, à condition de se réveiller. C'est que l'université ne vit pas en dehors du monde. Elle est soumise à des contraintes, internes et externes. Toutes les activités de l'université doivent répondre à des règles, en particulier l'organisation des missions d'enseignement et de recherche. Entre le rêve et la réalité, l'université gère chaque jour les tensions entre des aspirations apparemment contradictoires. Depuis des siècles, et plus encore depuis quelques dizaines d'années, sa réussite tient à sa capacité à maintenir un équilibre entre les termes d'alternatives de plus en plus nombreuses dans son organisation et dans ses missions d'enseignement, de recherche et de service. En tant qu'organisation, l'université doit permettre l'expression de parcours et de projets individuels en donnant à chacun le plus d'autonomie possible. Mais elle est aussi une institution complexe qui doit prendre en compte les intérêts et les enjeux collectifs. Elle doit combiner le respect des spécificités et la poursuite d'exigences communes. Elle doit suivre l'évolution de son environnement et les logiques économiques sans jamais renoncer à son ambition de justice sociale. Elle est confrontée au défi de démontrer que la recherche de la qualité ne signifie pas l'exclusion des plus faibles ou des plus démunis. En matière d'enseignement, l'université doit trouver la juste articulation entre des formations générales et une certaine professionnalisation des cursus, articulation qui est au cœur même de la réforme de Bologne. En matière de recherche, l'université doit répondre aux besoins de la société par la recherche appliquée et une politique de valorisation dynamique. Mais elle doit aussi rester le lieu indispensable de la recherche fondamentale, rappelant sans cesse que les grandes découvertes scientifiques n'ont jamais été planifiées. En matière de service, enfin, l'université doit être un acteur international et en même temps répondre aux besoins locaux. Plus largement, elle doit être dans la société à la fois un élément de permanence et un facteur de changement. Elle doit agir sur la société et la faire réfléchir sur elle-même en étant une conscience et une exigence pour cette société. Dans un monde de court terme, l'université représente la voie du long terme. Mais pour que cette voie puisse s'exprimer, elle doit aussi composer avec le court terme. Le processus de réforme que le Conseil rectoral a lancé dans l'université il y a 2 ans sous le nom de plan de développement répond aux besoins de gérer ces tensions. Et les réactions auxquelles il donne lieu en sont une très bonne expression. Entre accepter une lente dégradation des conditions de travail en se contentant d'apporter des aménagements marginaux et proposer une réorganisation plus profonde, j'avais invité le conseil d'administration et le conseil rectoral, plus directement confrontés que d'autres aux contraintes de la gestion, à choisir la seconde voie. Comme le dirait Jean de La Fontaine, un chemin montant, sablonneux, malaisé. Pour le recteur et le conseil rectoral, il n'est pas facile non plus de conjuguer l'ambition de départ et les contraintes de la réalité. Mon désir profond est d'entretenir le rêve et de permettre à cette pépite enfouie en chacun de nous de continuer à briller, quels que soient les aléas du quotidien. Mais je sais aussi que ce rêve n'a de sens que s'il peut se traduire dans la réalité, telle qu'elle est, et même si elle ne nous plaît pas toujours. Certains estiment que le processus de réforme est trop rapide, d'autres qu'il est trop lent. Certains voudraient l'appliquer d'une manière, d'autres d'une autre. Chacun revendique sa spécificité et devant les défis, le repli sur soi semble plus confortable que la mise en commun. Pour permettre à l'UCL de vivre les tensions inhérentes à une université moderne, revenons à l'objectif de départ du plan de développement. Améliorer la qualité de vie dans l'université et la qualité des activités. Favoriser la collaboration entre les membres de l'université. Assouplir et réduire le nombre des structures pour qu'elles soient moins pesantes. Revenons aux 5 principes qui avaient été mis en avant par le plan. Travailler au travers de grands ensembles, dans l'administration, en enseignement et en recherche. Professionnaliser les métiers et les procédures, optimiser les ressources, développer la subsidiarité, moderniser l'université. Et commençons par la mise en place des instituts de recherche qui permettront à des membres d'entités différentes de se rassembler autour de projets communs ou de thématiques communes. Créer des milieux de recherche interdisciplinaire est aussi une manière de tirer parti de la richesse d'être une université complète. Nous savons que la dynamique de ces instituts est présente, que des projets ont été déposés et que l'attente est grande de voir ce dossier avancer rapidement. L'Académie doit également devenir une des dimensions de ces instituts, lorsque c'est pertinent. Le Conseil rectoral et l'ensemble des doyens se sont réunis le 5 septembre dernier et ont déterminé des modalités pour faire avancer ce dossier. Et pour ma part, je vais inviter le Conseil rectoral à imaginer des pistes pour financer ces nouveaux instituts sans trop pénaliser les entités existantes. La création des instituts sera un signe positif pour l'ensemble de la communauté universitaire, indiquant que la transformation de l'université est en marche et qu'elle procédera en partant des projets des personnes. Pour les autres réformes, donnons-nous le temps de bien les réfléchir afin que chacun puisse y adhérer. Pour préparer cette seconde étape, j'ai demandé à rencontrer tous les bureaux de faculté avant Noël afin d'entendre les attentes de chacun. Mais est-ce qu'ils sont peut-être un premier pas de cette adhésion ? L'évolution de l'université ne doit pas être vécue comme un renoncement à notre identité commune, mais comme une invitation à revisiter notre identité, à la réactualiser pour la rendre plus vivante et plus rayonnante. Je voudrais illustrer cette idée devant vous d'une manière très personnelle, en partant d'une ville et d'un auteur qui me sont chers, Istanbul et l'écrivain Orhan Pamuk. Pamuk est un auteur indissociable de sa ville. Celle-ci est en filigrane de tous ses romans quand elle n'en est pas le personnage principal. Dans son dernier ouvrage, intitulé « Istanbul, souvenir d'une ville », il explique que le sentiment d'appartenance à Istanbul est inséparable de la conscience du passé de la ville, passé brillant d'une ancienne capitale d'empire qui fut aux yeux des Stambouliotes le centre du monde, en tout cas de leur monde. Pamuk montre combien la fierté du passé induit une tristesse, une mélancolie, à l'idée que ce passé est révolu et donne naissance à une tension, une difficulté de voir l'avenir de manière positive, celui-ci étant toujours d'une manière ou d'une autre comparé à un passé qu'il ne saurait égaler. J'ai lu ce livre cet été, au moment où je prenais du recul par rapport aux discussions de l'année académique écoulée. Et parce que ces discussions m'ont profondément fait réfléchir, les phrases de Pamuk sur Istanbul ont trouvé en moi une résonance toute particulière. Bien sûr, l'université n'est pas Istanbul. Mais l'introspection de Pamuk peut peut-être nous aider à mieux nous comprendre. Peut-être une université qui a un passé brillant a-t-elle plus de difficultés à imaginer un avenir qui pourrait être différent de ce passé ? Non pas que le présent ou le futur serait moins brillant, car l'ambition de l'université demeure constante, mais simplement parce qu'il serait différent. Parce que l'université est un élément de notre environnement quotidien, nous ne la regardons peut-être pas toujours avec le recul nécessaire. Dans son livre, Orhan Pamuk écrit ceci, je cite, « Peut-être aussi que la ville où nous vivons, tout comme notre famille, nous l'aimons parce que nous n'avons pas d'autre solution. » Mais il nous faut inventer les lieux et les raisons à venir de notre amour pour elle. Il nous faut inventer les lieux et les raisons à venir de notre amour pour elle. Cette phrase s'applique aussi à notre université. Demandons-nous quelles sont les raisons pour lesquelles nous y sommes attachés et pour lesquelles nous continuerons à y être attachés, bien qu'elles se transforment. Mon attachement à l'UCL ne tient pas à ses structures ou à ses modes de fonctionnement. Il tient d'abord à l'idéal universitaire. Qu'est-ce que l'idéal universitaire ? Une petite phrase des mythologies de Roland Barthes le résume parfaitement à mes yeux. La belle enchaîne la bête. Daniel se fait lécher par les lions. La civilisation de l'âme soumet la barbarie de l'instinct. Mon attachement à l'UCL tient ensuite à ses missions. Créer des connaissances, les transmettre pour former des adultes responsables et critiques, et servir la société. Mon attachement à l'UCL tient enfin à la richesse et à la force des personnes qui la composent et à leur capacité à faire de leurs démarches individuelles un ensemble cohérent et organisé. Ce sont cet idéal, ces missions et cette richesse que je veux préserver. Mais je sais aussi que les conditions qui nous permettront de les préserver ne sont plus les mêmes qu'avant. Parce que la société est en mutation et que l'université est un lieu de tension, il ne faut pas redouter le changement. Il faut au contraire le vivre comme un gage de notre avenir. Notre université a accompagné en l'influençant toute l'aventure de l'humanité depuis 1425. Elle a vocation à continuer à le faire, même si les conditions offertes à l'université ont changé. L'UCL peut affronter ce défi, non pas en perdant son âme, mais en la réaffirmant, en regardant vers l'avenir avec passion et avec confiance, cette confiance que nous plaçons en Notre-Dame, siège de la sagesse. C'est assuré de cette confiance que j'ai le plaisir de déclarer ouverte l'année académique 2007-2008. Je vous remercie.